Alors bonjour à tous, moi je vais vous faire une présentation peut-être un peu plus générale, pas forcément très technique comme les deux premières présentations. En fait moi, le but de participer à ce séminaire, c'était peut-être justement de retracer quelques notions d'invasion, enfin, tout ce qui a trait à ces notions-là, faire un état des lieux en France et tout ce qui est perspective d'action avec le cas particulier des amphibiens et reptiles. Alors, vu que je sais que c'est un groupe faunistique qui n'est pas forcément très connu, soit de votre milieu, soit de, plus largement, hein, et qui n'est pas forcément beaucoup évoqué, je me suis dit que c'était peut-être bien de présenter déjà ma structure professionnelle, partir aussi un peu sur des notions plus générales amphibiens reptiles et aller sur les invasions. Donc, je suis Maude Béronneau de la Société herpétologique de France, dite SHF. Donc, je vais vous présenter vite fait la SHF et son réseau. Donc c'est une association loi 1901 qui a 40 ans d'existence, voilà, qui est agréée par le ministère. C'est essentiellement un regroupement de passionnés experts en herpétologie, donc ça regroupe aussi bien des chercheurs que des biologistes, des systématiciens, des naturalistes. Le but et les statuts de l'association, c'est tout d'abord de faciliter les rapports entre herpétologistes français, mais également de mieux faire connaître les reptiles, les amphibiens et leur rôle dans les équilibres naturels, ça c'est le point important, et de contribuer à une meilleure connaissance de la répartition de l'herpétofaune en France métropolitaine et outre-mer si possible, là on commence un peu, ainsi qu'améliorer les conditions d'élevage des reptiles et des amphibiens, notamment à des fins scientifiques. On a effectivement un petit volet terrariophilie que je vous expliquerai peut-être à l'occasion de cette présentation. Donc en 2011, ils m'ont recruté, donc la photo est un peu sombre, mais c'est moi dans mon bureau. Les buts principaux de mon poste, parce que donc, je suis la seule chargée de mission dans cette association qui est à envergure nationale, c'est le développement de la vie de l'association, donc tout ce qui est communication, augmenter la visibilité auprès des instances, mais aussi faire l'interface entre instances publiques, donc le ministère, les DREAL et le grand public, et les gestionnaires, enfin, c'est vraiment histoire de coordonner un peu tout ça. Impliquer la SHF dans les programmes nationaux, je vous en parlerai aussi un peu plus tard, et de lancer une dynamique sur certains sujets. Donc, par exemple, on peut citer la participation au PNA Institute d'Europe, au PNA Les Arrosserets, c'est les plans nationaux d'action. Alors n'hésitez pas à me couper s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, parce que je sais qu'en herpétologie, des fois, on a tendance à utiliser des mots qui nous paraissent, enfin des sigles, qui nous paraissent très... Ouais. Oui. Alors l'herpétologie, c'est justement la science, donc c'est la science et l'étude des amphibiens et des reptiles. Donc amphibiens, c'est tout ce qui est anour, urodèle, donc grenouilles, tritons, etc. Et les reptiles en général, c'est vraiment un terme très générique, mais en fait pour reprendre tout ce qui est donc lézards, serpents, tortues. Voilà. Quelques notions sur l'herpétofaune. Donc l'herpétofaune, c'est que amphibien, c'est la faune, amphibienne et reptilienne. Donc quelques chiffres. Les amphibiens, il y a plus de 8000 espèces dans le monde, dont 35 en France métropolitaine. Pour les reptiles, c'est exactement la même chose à quelque chose près, 8000 espèces dans le monde et 40 espèces en France. Donc la part des amphibiens et reptiles dans la biodiversité est très forte, que ce soit dans le monde, mais aussi en France. Je vous présente quelques habitats fréquentés pour vous montrer que vraiment on peut les retrouver un peu partout, donc c'est essentiellement des zones humides, mais ça peut être aussi bien sur le littoral qu'en zone d'altitude, en résurgence ou sources diverses dans les plaines, marais et zones humides, en bois et forêts, et en pelouse et coteaux secs. Donc toutes les problématiques qui vont toucher ces habitats vont toucher les amphibiens et reptiles potentiellement. Les menaces qui touchent les amphibiens et reptiles sont diverses. Il faut savoir qu'une espèce sur cinq risque de disparaître en France. Donc les menaces sont entre autres tout ce qui est lié à la pollution, les destructions ou altérations des habitats, donc aussi bien agriculture intensive, modification des parcelles, comblement des mares, etc. Mortalité routière, donc par exemple surtout sur les serpents, et sans oublier bien sûr une grande part due aux introductions d'espèces, donc empoisonnement, écrevisses américaines, etc. Donc les espèces exotiques envahissantes, que moi je nomme triple E, quelques définitions. Donc là je rappelle des notions un peu de base qu'on utilise nous pour l'herpétologie. Je sais que des fois dans d'autres groupes ça peut être un petit peu différent, mais voilà sur quoi nous on se base. Donc les espèces autochtones, ce sont des espèces dont les populations sont situées à l'intérieur de leur aire de répartition naturelle. Les espèces exotiques, ou alloctones. C'est une espèce dont les populations sont situées à l'extérieur de l'aire de répartition naturelle. Et une espèce invasive est une espèce exotique qui va perturber son écosystème d'accueil et nuire à la diversité biologique autochtone. Alors attention, on parle très souvent d'espèces invasives, mais normalement, pour bien faire, on devrait parler de population invasive, parce que selon son lieu d'introduction et sa réaction face à l'écosystème, elle peut devenir invasive ou non. Donc ça c'est un peu sombre. Donc là c'était pour vous expliquer qu'en gros, on classait justement ce niveau d'invasion en 5 classes. Donc la première classe c'est les individus isolés, donc ça correspond à des animaux échappés, à des introductions ponctuelles. Le niveau 2 c'est présence de plusieurs individus sur un même site, donc reproduction non avérée mais possible. Je ne sais pas si on peut rendre un peu plus clair le... Je ne sais pas. C'est mieux ? Bon, je suis désolée, ça va être un peu sombre du coup, mais bon. Donc le niveau 3, c'est des populations installées avec reproduction avérée. Le niveau 4, population en expansion, mais espèce actuellement considérée non envahissante. Et le niveau 5, c'est population en expansion, espèce considérée envahissante. Donc les espèces exotiques envahissantes. Petite 2, impact. Donc il faut penser à tout ce qui est impact économique. Donc effectivement, il y a différentes études qui ont pu prouver le coût annuel de l'impact des invasions biologiques, donc notamment sur l'économie américaine, où il y a une première étude qui avait évalué ça à 1 milliard de dollars. D'autres études ont vraiment apporté d'autres tranches, comme 137 milliards de dollars, donc comme quoi c'est encore quelque chose à étudier, mais c'est assez impressionnant. On peut citer les exemples du zébrafiche ou alors de la détérioration des digues par le castor. Les impacts sanitaires, donc de nombreuses épidémies qui peuvent être justement véhiculées ou apportées par ces invasions. L'introduction d'agents pathogènes ou de leurs réservoirs et vecteurs est à l'origine justement d'émergence de nouvelles pathologies. Les impacts environnementaux, donc les invasions biologiques sont considérées comme l'une des causes majeures de la perte de diversité spécifique à l'échelle mondiale. Voilà, on peut également dire qu'entre 1600 et nos jours, les introductions d'espèces par l'homme sont à l'origine de l'extinction documentée. Donc là, je cite quelques références. Si on aborde maintenant le phénomène justement qui est en expansion, là je vous ai rapporté un petit graphique mais qui montre bien le phénomène qui s'est accentué justement vraiment dans les années 1900. Donc on peut vraiment dire, enfin là pas grâce à ce graphique mais pour d'autres raisons, on peut vraiment dire que c'est vraiment l'homme qui est en cause la plupart du temps de ces introductions. On peut citer justement l'exemple d'introduction d'espèces de rats dans les différentes îles du monde de par justement l'homme et ses voyages. Voilà. Et donc pour ce qui est des exemples d'amphibiens et reptiles exotiques en France, donc non seulement les amphibiens et reptiles en France peuvent être impactés par les introductions de type justement Procambarus, d'autres espèces, mais il y a aussi des amphibiens et reptiles introduits qui vont agir sur les amphibiens et reptiles locaux. Donc on peut citer par exemple la tarente de Mauritanie. Donc ça c'est un peu particulier parce que c'est une espèce qui est française, qui est d'origine du sud de la France. Donc là, elle est vraiment locale, mais elle a des points d'introduction, notamment justement en Gironde et en Lot-et-Garonne et dans quelques autres départements, via les gares et les trains de transport. Donc voilà, donc elle s'introduit via les transports humains. Voilà, donc dans... Pardon ?
C'est un serpent ?
Alors non, c'est un gecko. Oui. Oui, pardon, c'est un gecko qui est vraiment pas très grand, qu'on retrouve souvent dans les zones méditerranéennes, donc aussi bien en milieu urbanisé, déjà c'est son milieu naturel, mais également, enfin voilà, il n'hésite pas à venir en ville, mais sinon on le retrouve vraiment plus dans le milieu méditerranéen, quoi. Donc là, ben voilà, on peut le retrouver maintenant dans certains autres départements, grâce au transport de marchandises. Donc là, c'est une espèce donc introduite, mais pas considérée encore invasive, parce que du coup, dans ces départements-là, il n'y a pas de preuve de reproduction locale, etc. Donc pas forcément d'impact a priori sur les écosystèmes d'accueil. Là, je vous présente vite fait la Calidra serpentina. Donc, ça, c'est une tortue qui vient d'Amérique du Nord et qu'on peut retrouver là maintenant en Aquitaine également et vers la région parisienne. C'est encore très localisé. Et ça, c'est des espèces qui étaient vendues. Elles font 5 cm à la naissance, hein, donc c'est tout petit, et donc c'était vendu à l'époque dans les années 80-90 pour la terrariophilie. Et beaucoup de parents achetaient ça à leurs enfants en disant oh, c'est mignon, ma petite tortue. Sauf qu'adulte, ça devient justement très grand et très costaud, et son nom, la traduction, enfin le nom commun, c'est tortue serpentine ou tortue alligator. C'est quand même assez virulent. C'est une espèce qui est plutôt de fond, donc vaseuse, qui reste vraiment au fond des plans d'eau et des fossés. Mais donc pour l'instant, on a eu vent d'une reproduction avérée là en Gironde. Après, je sais qu'il y a des associations locales qui justement travaillent dessus, là, ou vont travailler dessus ces prochaines années. Donc ça, c'est pour l'instant aussi une espèce introduite, mais... pas forcément encore avec un impact avéré au niveau invasion. Voilà. Après, je vous présente le cas de la Trachemys scripta. Donc, ça, c'est tout ce qui est tortue dite de Floride. Donc, elle est originaire d'Amérique du Nord également, donc de Floride essentiellement. Donc, c'est pareil, c'est dans les années 80-90 qu'elle a été très commercialisée pour l'aquariophilie et la terrariophilie. Elle a été donc, oui, c'est ce que je viens de dire, elle est interdite d'importation depuis 1997 parce que là vraiment elle avait été tellement importée en masse que là il y a eu beaucoup de conséquences parce que c'est pareil, c'est une tortue qui grandit assez vite, qui est carnivore, enfin on va dire omnivore dans le sens où elle est carnivore au début de sa vie et elle devient de plus en plus omnivore et charognarde même sur la fin. Et elle peut même manger des végétaux, bon elle est un peu... voilà, elle mange un peu tout. Et donc c'est une tortue qui devient vite assez grande et les familles ne veulent plus les garder dans leurs petits aquariums chez elles et ont souvent pas forcément envie de créer des mares pour les garder dans leur jardin. Donc les gens jusqu'à présent avaient tendance à les relâcher dans la nature, dans les étangs, dans les lacs. Donc là maintenant on les retrouve vraiment partout. C'est vraiment un fléau. Là, par contre, c'est une espèce donc introduite et envahissante pour différentes raisons, justement. Donc, les animaleries proposent depuis aussi d'autres sous-espèces à la vente. Parce que, elle, la Trachemys scripta elegans, est interdite. Sauf que, y a d'autres sous-espèces qui ne sont pas stipulées dans les arrêtés. Et donc, là, ben, forcément, les animaleries ont en profité. Voilà, donc ça c'est le cas des petits aquariums qui est trop petit et voilà, c'est un animal de compagnie qui n'est pas trop donnant-donnant, hein, c'est pas, il n'y a pas trop de répondants. On s'en lasse assez vite malheureusement la plupart du temps. Donc ça c'est la répartition en Aquitaine. Voilà. Il faut savoir que les mâles sont bien présents aussi en France et donc la reproduction a été avérée à différents endroits.
Excuse-moi. Les codes
couleurs
de la carte jaune-rouge, c'est quoi ?
Pardon ?
Les codes couleurs de la carte.
Alors, ça, c'était justement dans le cadre de l'Atlas Aquitain, qui a été fait porter par l'association Sistune Nature. Et en fait, les points jaunes, c'était les points connus. Non, c'est l'inverse. Les points rouges, c'était les points connus avant. pas de bêtises, ça devait être avant 90. Et les points jaunes, c'est depuis. Voilà. Là, je vous liste très rapidement les autres espèces exotiques qui sont envahissantes ou non, d'ailleurs, connues en France métropolitaine. Donc, il y a le Triturus carniflex, c'est un petit triton. Les Xenopus lelis, le Xenoplis, là, c'est un amphibien assez gros qui est pour l'instant assez localisé, mais qui est en expansion et là, qui est assez virulent. Il y a le Discoglossus pictus, ça c'est le Discogloss pin, c'est un petit amphibien également, là qui pour l'instant est introduit mais qui n'a pas de réelles caractéristiques d'invasif. Le Bombina bombina, c'est le sonneur à ventre de feu. Nous en France on a le Bombina variegata, le Bombina, enfin donc le sonneur à ventre jaune. Donc c'est son collègue mais qui normalement est plutôt allemand, Europe de l'Est, et qui a été introduit en Alsace-Lorraine. Il y a le Podarcis siculus, c'est un petit lézard qui est normalement connu plutôt de la zone méditerranéenne et qui a été introduit en Corse et sur les côtes méditerranéennes françaises. Et la Natrix tessellata, donc ça c'est la couleuvre tesselée, une couleuvre qui ressemble beaucoup à notre couleuvre soit de Acolier, soit vipérine, et qui est introduite pour l'instant au lac Léman. Alors je vous propose un petit focus, j'espère que je ne dépasse pas trop le temps, je ne sais pas si ça vous va. Je vous fais un petit focus sur une espèce exotique envahissante en Aquitaine, la grenouille taureau. Donc voici un individu de grenouille taureau, un amphibien assez gros, hein, qui peut vite dépasser les 500 grammes. Hein. Les cartes de répartition aux États-Unis justement en 1989 et en 2000, on voit bien déjà rien que chez eux l'expansion, la capacité de dispersion et de colonisation des milieux. Voici la carte de répartition mondiale en 2003. Donc on voit qu'il y a déjà une partie de l'Europe bien touchée. Donc l'homme est la première cause de l'expansion de la grenouille taureau. Donc la petite carte, mon premier point d'introduction en France, c'est à Arvers, à côté de Libourne, dans les années 60. C'est un aviateur qui revenait, pour la petite histoire, qui revenait de Floride, il me semble, justement, et qui trouvait cette grenouille très très belle, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas moche, hein, enfin, moi je la trouve très jolie, très esthétique, mais c'est conséquent, et il en voulait une ou deux pour son plan d'eau personnel dans son jardin, sauf que bah, il a ramené deux trois individus, il me semble, dont des mâles et des femelles. Et donc c'est le point d'introduction de base dans les années 60. Donc il y a aussi eu des points d'introduction en Italie à peu près à la même époque, plus tardivement en Sologne et en Allemagne. Là, qui viendrait d'une autre source. Là, apparemment, c'est différent. Donc là, j'ai listé globalement les impacts de la grenouille taureau. Donc, prédation des espèces autochtones. Donc là, c'est toujours pareil. J'ai pris les études qu'ont fait l'association locale Système Nature en Gironde, qui ont beaucoup travaillé sur la grenouille taureau. Donc là, c'est le régime alimentaire sur justement. Ils ont prélevé plein d'individus, ouvert étudié les contenus stomacaux et donc fait des études là-dessus. Donc on peut voir qu'il y a quand même une grosse proportion aussi bien d'insectes mais d'amphibiens locaux, autochtones. Donc c'est assez impressionnant. Donc là, je vous mets quelques photos pour exemple. Donc là, c'est justement un micro-mammifère qui a été dévoré tout cru. Là, c'est des restes de salamandres, donc d'amphibiens, là également, et de bétiques. Là, voilà, une couleuvre à collier entière. Donc là, bon, voilà, un oiseau aussi, c'est quand même assez dingue de se dire que ça peut loger dans cet individu. Voilà. Donc, en autre impact, il y a notamment la compétition interspécifique. Donc, voilà, quand on voit la taille des têtards, on peut imaginer ce que ça mange, ce que ça occupe comme écosystème, et voilà. Donc c'est assez impressionnant. Après, faut pas forcément, ça paraît impressionnant comme ça. Il faut savoir qu'il y a d'autres espèces autochtones qui peuvent avoir des fois des têtards assez gros. Hein. Mais ça reste quand même assez rare. Alors que là, la grenouille taureau, c'est à chaque fois, à chaque ponte, les têtards sont de cette taille. Et sont en masse. Voilà. Donc à chaque fois, c'est des pontes énormes, de plus d'un mètre carré par ponte. Hein. Donc avec vraiment plusieurs centaines, voire milliers de pétards qui émergent. Comme autre impact, il y a également le fait qu'elle est porte saine de chytrides, le batrachochytrium dendrobatidis. Donc là, il y a des études en cours, au début qui étaient plutôt alarmistes, parce que quand on a découvert qu'elle était porteuse de ce champignon et que certains amphibiens locaux étaient retrouvés morts avec ce champignon développé sur la peau, tout de suite on a lancé une alerte en disant là il y a un gros souci, elle véhicule une maladie très grave, il y a des risques de mortalité intense. Et finalement, bon, il y a plusieurs souches de chytrides dont certaines sont supportées par nos espèces autochtones. Donc c'est encore en étude et c'est assez complexe. Mais il faut savoir qu'elle, elle est porteuse saine. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est la distribution donc en Aquitaine, avec le point d'introduction. Voilà. Voilà, donc ça c'était le phénomène de dispersion. Alors là, c'est pour la Gironde, c'est de la dispersion ici naturelle. Ici, on suppose qu'il y a eu un déplacement, une introduction autre, et également ici. Hein. Mais là, elle a tendance à remonter vers l'estuaire naturellement. Pour tout ce qui est perspective, donc là, je vous évoque très rapidement les études et gestion. Donc, pour tout ce qui est amphibiens et reptiles, des études d'évolution des populations et de l'écologie de ces dernières sont en cours depuis plusieurs années maintenant. Là, je peux vous présenter justement l'exemple des suivis du réseau du GTIBMA. Ça, c'est le groupe de travail Invasion biologique en milieu aquatique. Je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent. Notamment donc, sur le Xenoplis, qui englobe les régions Poitou-Charentes, Centre, Pays de la Loire notamment. Il y a également des plans d'éradication et tests en grandeur nature qui ont été faits ces dernières années, comme l'exemple justement du programme pluriannuel Aquitain sur la grenouille taureau, dont je vous ai présenté quelques résultats et quelques images, donc grâce à Sistu Nature et au PNR Périgord Limousin, entre autres, programme qui a été fait entre 2003 et 2007. Et il y a bien sûr donc les perspectives nationales, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose qui a été fait au niveau national pour coordonner un peu tout ça et vraiment essayer de gérer ou du moins limiter ces phénomènes d'invasion et d'introduction surtout. Donc il y avait des réflexions autour d'un plan national d'action espèces invasives qui avait été initié en 2011, mais le ministère n'est pas du tout, pour l'instant, ne répond pas favorablement, il ne sait pas pourquoi. C'était pas dans les petits papiers. Et sinon, il y a le montage d'un programme LIFE qu'on a appelé XL, justement pour Xenop, donc Xenoplis et Lithobates pour grenouille taureau. Donc Xenoplis et grenouille taureau, dont le montage commence dès septembre. Là, cette fois, on lance vraiment le programme. Donc là, il s'achèverait la structure porteuse. L'Université d'Angers ferait partie de nos partenaires principaux, notamment pour tout ce qui est montage de dossiers. Et nous sommes suivis justement par pas mal de DREAL. Et justement, j'en profite pour lancer un peu un appel parce qu'on va justement embaucher une personne en septembre sur cette thématique-là. Et on est intéressé par toute candidature. Voilà, et par tout soutien de partenaires. Donc, si vous avez des idées de personnes qui seraient prêtes à nous suivre sur ce projet, ne pas hésiter à me contacter. Voilà, merci à vous. C'est un bien grand mot parce qu'en fait justement il y a donc notamment le programme pluriannuel qui a été fait là en Aquitaine a montré que par des systèmes de piégeage, donc déjà il y aurait plusieurs actions. Il faudrait avoir une action sur ce qui est ponte et tétard. Donc déjà ramasser les pontes systématiquement dès qu'elles sont visibles, dès qu'elles apparaissent, parce que vu qu'elles font 1 mètre carré facilement, elles sont visibles, elles sont en plus à la surface de l'eau. Donc il y a déjà cette action-là, ramassage des pontes. Il y a des systèmes de piégeage qui ont été testés pour tout ce qui est tétard. Donc pareil, récolte des tétards à la bonne période. Donc déjà pour limiter vraiment cette phase-là de développement. Et après, pour les adultes, le piégeage marche mal. Et donc, ce qui avait été retenu comme, comme méthode efficace, c'était le tir à la carabine. Donc, voilà. Donc, la conclusion... Ouais. Ça peut paraître impressionnant, mais c'est la seule solution et qui marche très bien. Alors, par contre, ça implique d'avoir une sorte de brigade, en fait, qui est vraiment très spécialisée là-dessus. Donc, soit d'être en lien avec des gardes ONCFS qui sont spécialisés là-dessus, qui sont formés à reconnaître les grenouilles taureaux, parce que c'est pas si évident que ça, des fois. Hein. Il peut y avoir des risques de confusion avec des grenouilles vertes qui paraissent un peu grosses. Hein. Donc, il vaut vraiment mieux former ces gardes. Alors, non. Alors, disons que ça, c'est un peu particulier, parce que la législation, elle est un peu ambiguë là-dessus, ou disons qu'elle n'est pas encore bien faite. Normalement, un particulier n'a pas le droit de tuer un animal, même exotique, qu'il trouverait comme ça dans la nature. Il n'a pas le droit de le prélever, de dire « tiens, je vais le tuer ». Ça ne marche pas comme ça. Et en même temps, par contre... Et donc, il n'a pas le droit non plus de le déplacer, ni. Enfin, voilà, il y a pas mal de règles là-dessus. Mais par contre, s'il tombe dessus, normalement, il n'a pas le droit non plus de le relâcher dans la nature, de le remettre dans un étang. Donc, si on tombe sur un individu, hein, que ce soit une grenouille taureau adulte ou une trachémis ou autre, on est censé appeler les autorités compétentes. Or, les autorités compétentes, pour l'instant, c'est l'ONCFS en l'occurrence. Même si ça dépend des départements, ils n'aiment pas forcément se déplacer sur ce genre de choses, parce que sinon ils sont vite débordés. Et voilà, donc pour l'instant on est un peu bloqué. Donc ça reste des choses à faire au niveau national. Alors non, normalement il vaut mieux dire envahissant. Parce que c'est un anglicisme déjà de dire invasif, et enfin, normalement le terme c'est envahissant, et c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser les deux, voire invasif. Mais normalement c'est plutôt envahissant qu'il faut utiliser, nous, dans nos présentations françaises.
Une question. Si on est censé ne pas tuer les animaux adultes, est-ce qu'au niveau des œufs, la législation est la même?
Alors oui.
D'une part, et d'autre part, si j'ai bien compris, dans le cas de la grenouille, les œufs sont répartis sur une grande surface, peut-être sur une grosse taille. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion possible avec autre chose?
Alors non, c'est pareil. Je vais faire par deux points. Voilà, il y a deux choses et en plus il y a deux réponses. Donc pour tout ce qui est ponte, normalement il n'y a pas de risque de confusion possible, sachant que normalement c'est vraiment des pontes qui sont très larges, très réparties, avec vraiment une forme d'œuf particulière. Il faut être formé, ceci dit, pour les reconnaître. Je veux dire, on ne va pas confier à un particulier la tâche d'enlever de son propre étang des pontes qui lui sembleraient ressembler à de la grenouille taureau. Non, effectivement, il faut quand même s'y connaître un petit peu, mais elles sont très différentes des pontes de nos amphibiens locaux, normalement. Après, quand je vous ai dit que c'était interdit de tuer des individus adultes, ce n'est pas tout à fait ça. C'est toujours pareil, c'est le grand public qui n'a pas ce droit-là. Il n'a pas normalement le droit de vie ou de mort sur un individu, sachant justement le risque de confusion, etc. Par contre, les structures locales, normalement, justement, quand elles récupèrent des trachémis, donc des tortues de Floride, elles ont... c'est pareil, c'est pas noté dans la loi, mais elles sont donc officieusement autorisées à euthanasier ces individus. Parce que sinon, elles se font déborder... Et vu qu'on ne peut pas non plus les relâcher dans la nature, on se retrouve coincé.
La loi est la même pour un adulte et un œuf ?
Alors oui, non, dans la loi par contre, et c'est bien écrit que toute partie même d'individu. Les termes sont assez bizarres, mais en fait, même une partie de l'individu n'est pas transportable, donc même mort et vif. Donc qu'elle soit déjà morte ou encore vivante, on n'a pas le droit de la transporter, et tout ou partie, donc même la ponte, les têtards. Voilà. Ça déjà c'était pour limiter aussi justement le phénomène d'introduction dans d'autres endroits. C'était pour éviter les déplacements.
Oui. Vous avez montré une partition à Montreux, mais est-ce que vous avez des effectifs considérés dans l'Aquitaine par exemple? Il y en a c'est quand même un...
Alors là, moi, j'aurais pas les chiffres en tête, mais c'est quand même assez important. comment vous dire, déjà il y a trois noyaux différents maintenant, enfin, qui sont assez localisés, mais la dispersion a été assez rapide, et vu que c'est des individus qui se reproduisent là annuellement, et qui peuvent faire même des fois même deux pontes, bon, normalement ici elles font qu'une ponte à l'année, mais elles peuvent faire deux pontes à l'année, ça va très vite. Là, j'ai pas de chiffres en tête. Je sais pas si Marie aurait plus d'infos là-dessus. Non, bah, je pense que c'est quand même quelques milliers. Hein. C'est quand même, oui, voilà.
Excusez-moi,
mais
j'ai un site internet phonetitel.org qui rassemble le ressort d'un certain nombre d'observations et qui apporte un certain nombre de réponses.
Oui. Oui, ça c'est la base naturaliste en ligne. Vous parlez de Faune Aquitaine, c'est ça? Donc c'est la base naturaliste en ligne qui a été développée notamment par la LPO. Et c'est vrai qu'il y a différentes.
C'est principalement la répartition à vous de regarder dans les pièces.
Voilà. Oui, mais c'est ça. Et puis ça, c'est voilà, c'est collaboratif. Donc en fait, c'est une base qui est ouverte à tout à chacun. Et donc, par contre, les suivis en tant que tels, les études de répartition et de population qui ont été faites lors du programme ont vraiment dénombré plus précisément hein, l'impact et puis le nombre d'individus potentiellement présents. Je pense que c'est plus précis. Il faudrait contacter justement Sistune Nature pour avoir plus d'informations là-dessus.
Il y a sur ce site Faune Aquitaine, il y a tout un tas de documents.
Oui. Notamment des rapports.
Et je pense qu'il y a des liens vers.
Oui, oui, oui. Oui, non seulement il y a des liens, mais je pense même qu'il y a des fois en ligne des rapports d'activité sur certains sujets. Et par contre, justement, suite à ces programmes pluriannuels, on peut pas réévaluer, enfin, on peut pas donner une notion exacte justement du nombre de grenouilles taureaux qui s'est développé depuis, parce que c'était pas un plan d'éradication, c'était un plan pour imaginer si l'éradication était possible ou pas. Donc c'était un plan préparatoire, si on veut, un programme préparatoire. Et donc depuis, vu que rien n'a été fait concrètement suite à ce programme, les financeurs n'ont pas forcément suivi de suite. Et du coup, bah, depuis, elle a continué sa dispersion et son augmentation. Après, je sais que par contre, le parc Périgord-Limousin, lui, applique une éradication sur son parc. Et a vraiment fait ça... de façon très régulière, enfin, tous les ans, ils ont, c'est dans leur charte. Donc il faut aussi les contacter potentiellement pour avoir des infos là-dessus.
Et même du coup, c'est devenu un espèce de lobbying,
oui.
la chasse à la communauté,
oui.
Le parc, un
nouveau monde. Oui, ils ont 10 personnes, je crois, entre les bénévoles et...
Ouais.
Ben là, ça a bien pris en Dordogne, mais ça n'a pas forcément pris ailleurs pour l'instant. Alors non, c'est le problème, c'est que sur son aire de répartition classique, donc aux États-Unis, même on voit qu'elle disperse quand même bien, mais il y a des prédateurs, hein, que ce soit ben, justement quand même des grands oiseaux, mais également des crocodiles, enfin il y a un peu de tout. Donc il y a des prédateurs, alors que nous non, on n'a pas de grands prédateurs. Si les têtards peuvent des fois se faire manger par les hérons, etc. Mais c'est tellement ponctuel que ça n'a pas d'impact sur la reproduction. Et les adultes, ils n'ont pas vraiment de prédateurs. Ouais, je pense que si un chien tombe dessus, ou un chien errant ou quoi, bon, il va trouver ça sympathique. Mais je sais pas, enfin voilà, c'est trop ponctuel, c'est trop occasionnel. Si le prédateur, ça pourrait être l'homme, mais.
Vu le nombre d'espèces de reptiles exotiques qu'on trouve dans les animaleries en France, sur Internet, est-ce qu'on ne peut pas supposer qu'il y ait beaucoup plus d'espèces exotiques?
Alors,
présente dans le milieu par rapport au milieu,
si,
les gens vont
voir. Oui, alors si. Le problème, c'est que justement, donc, le problème de l'herpétologie, enfin le problème, il n'en est pas vraiment un, mais c'est disons qu'il y a un secteur qui s'appelle la terrariophilie, où là vraiment, donc, il y a des grands passionnés qui, font, aussi, enfin, qui font venir de partout, hein, et donc via les animaleries, mais aussi un réseau propre, qui font venir beaucoup d'espèces exotiques. Après, normalement, ces personnes-là sont censées être capacitaires, donc détenir un certificat de capacité, être formées, et respecter la loi et ne pas relâcher leurs individus. Après, les relâchés ponctuels peuvent exister, et effectivement, on a des observations très aléatoires et très rares de certaines espèces, voilà, un boa, ceci, cela, enfin bon, des espèces très particulières qui peuvent être retrouvées une fois, voilà. Après, bah, effectivement, quand on en voit un, on peut imaginer qu'il doit y en avoir deux, trois autres ailleurs en France qui traînent, mais il n'y a pas d'autres populations avérées, ou de, enfin voilà, il n'y a pas un secteur où plusieurs individus ont été repérés pour ces espèces-là.
Et que dit est-ce qu'il y a une législation?
Ah oui.
Pour le particulier, par exemple, si je veux acheter une iguane,
alors non, en fait, la loi, il y a un arrêté qui existe pour normalement cadrer un peu la terrariophilie, mais en fait, c'est pareil, il est trop vague. Et en fait, il stipule que celui qui détient un animal est censé avoir le certificat de capacité. Donc, ça veut dire qu'il a suivi une formation et qu'il a montré à un jury, donc à des autorités, qu'il avait les capacités pour vraiment élever un animal dans bonnes conditions et se porter garant pour ne pas relâcher ces individus et limiter la reproduction. Sauf qu'en fait, les animaleries, elles, ont ces certificats de capacité, donc elles ont le droit de détenir donc, certains animaux. Et par contre, elles sont censées, normalement, c'est pareil, elles sont censées, c'est pas écrit vraiment, elles sont censées vérifier, à chaque fois que quelqu'un achète un animal, elles sont censées vérifier que cette personne a le certificat également. Sauf que jamais. Donc, la loi est pas claire là-dessus, c'est pareil. Donc, voilà, ils se rejettent un peu tous la faute en disant, bah, nous, on a notre certificat, on a le droit de vendre, et c'est des individus qui sont réglementés, donc il n'y a pas de souci, on a les papiers, parce qu'on a aussi obligation, normalement, maintenant, de tout ce qui est tatouage, d'être pucé, donc les individus, normalement, sont fichés, pour que les vétérinaires, justement, puissent avoir aussi des répertoires de ces différentes espèces et individus sur le territoire français. Mais voilà, le problème c'est ça, c'est que les particuliers ne sont pas forcément au courant de la loi et de leurs obligations, et que les animaleries ne les avertissent pas là-dessus. C'est
encore plus. Un serpent.
Non, ils sont pucés. Ils sont soit pucés. Ils sont soit pucés, soit après ils sont identifiés par leurs motifs qui sont propres à chaque individu, et aussi marqués par des marquages écailles.